Slate Podcast.
La première fois que j'ai mis les pieds dans un club de magie, c'était après mes années lycée. J'avais bien bossé dans mon coin et il était temps de rencontrer des magiciens. J'ai trouvé un club à Paris et j'ai été à l'une de leurs réunions. Une chose m'a frappé quand j'ai poussé la porte, je n'ai vu que des vieux mecs. Allez, ça va, c'est pas des vieux mecs au sens péjoratif. Enfin, pas trop. Mais il y avait que des mecs et ils étaient vieux. Le plus jeune devait avoir 45 ans et le plus vieux tapait les 80 faciles. Et parmi eux, s'exprimait pourtant une réelle mixité sociale, mais aussi ethnique. Franchement, il manquait que des femmes. Puis je me suis demandé si j'avais déjà croisé une magicienne dans ma vie. Comme tous les magiciens, j'ai dans ma tête un palais mental. C'est un grand appartement que j'ai imaginé dans lequel je stocke de manière organisée et visuelle des informations pour pouvoir m'en souvenir rapidement. Alors je m'y suis plongé, j'ai passé la porte d'entrée, j'ai pris l'ascenseur secret caché derrière la cheminée, celui qui me permet d'accéder au sous-sol. Dans ce sous-sol se trouve une cave voûtée dans laquelle j'ai placé tous les magiciens que j'ai croisés dans ma vie. Dans la rue, au théâtre, à l'école, à Disneyland, en prison. J'ai ouvert la porte et quelque chose m'a frappé. Je n'ai vu que des vieux mecs. Où diable sont les femmes magiciennes? C'est la question que je vais poser aujourd'hui à mes invités. Alors je suis avec Caroline Marx.
Bonjour.
Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Donc Caroline, on te voit régulièrement sur TF1 dans Diversion.
Exactement.
Et aujourd'hui au théâtre.
Voilà.
Et donc tu es une femme magicienne, une des rares.
Une des rares représentantes de la magie, c'est
voilà.
Vrai.
Voilà. Ouais. Thomas Thiebaud, tu es avec nous aussi.
Bonjour Guillaume.
Thomas, tu es l'administrateur du plus vieux forum de magie français, qui est même un des premiers sites web en France qui a plus de 20 ans.
Tout à fait.
Virtuelle magie.
21 ans,
virtuelle magie. Donc toi, t'as vu passer beaucoup de magiciens. On peut dire que d'une certaine manière, t'es un peu le gardien du plus gros club de magie francophone.
Exactement.
Voilà. Et Marine Métral, qui est au téléphone avec nous en direct d'Espagne, pour vous dire à quel point il est difficile de trouver des magiciennes. On est allé chercher Marine. Donc Marine, tu es en équipe de France de magie. Ton numéro de scène a été plusieurs fois primé. Et aujourd'hui, tu es en Espagne pour continuer à parfaire ton art, il me semble, d'après tes stories Instagram.
Oui, voilà, je suis en... Voilà, exactement. Enchantée,
merci d'être avec nous. Donc, tu es au téléphone, actuellement enfermé dans ta voiture. C'est pas si
c'est
facile de faire des duplex, mais en tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. Et donc, la première question que je vous pose à tous les trois, et on va commencer par les filles, la magie, c'est un truc de mec.
C'est vrai, oui. Malheureusement.
Tu l'as remarqué, toi ?
Il y a très. Alors moi, depuis toute petite, j'ai toujours vu le magicien accompagné de la jolie assistante. Et ça m'avait marqué. Je me disais, pourquoi il n'y a pas de fille ? Il n'y a pas de fille magicienne. Et moi, je me disais secrètement, un jour, ce serait moi qui mettrais les hommes en boîte. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait j'avais fait une tournée des Zéniths et tout ça. Et j'avais mis les partenaires en boîte et je les coupais en morceaux.
C'est toi qui coupais les mecs.
Voilà.
Alors que d'habitude, c'est toujours l'inverse.
Bah oui,
On a tous vu l'inverse.
Voilà, tous vu l'inverse. Et mon père, j'avais vu secrètement mon père qui était dans la salle à manger en train de répéter avec ma mère. Et je l'avais vu couper en morceaux dans la salle à manger. J'étais toute petite et j'avais hurlé. Je dis à mon père, qu'est-ce que t'as fait à maman? Qu'est-ce que tu lui as fait? Et puis elle me parlait dans une toute petite boîte. Elle me disait, je vais bien, ma chérie. Et voilà. Et après, j'ai compris que mon père était magicien. Mais ça m'avait marqué, quoi.
Donc, tu es fille de magicien.
Oui.
Je crois que c'est ton cas aussi, Marine.
En fait, mon chemin, il était un petit peu moins, fermé d'homme, même si, bien sûr, je suis une fille d'artiste de musical et une petite fille d'artiste de musical. Ma mère est une des magiciennes les plus, un des précurseurs en magie avec les femmes, parce que moi je l'ai toujours vue sur scène quand elle a commencé sa carrière avant de rencontrer mon père. C'est une magicienne qui a fait de l'ido, c'est la seule. Et elle était déjà dans une magie un peu féministe, parce que effectivement elle faisait ça, elle mettait ses partenaires hommes en boîte. Et moi, cette image de la femme qui s'impose dans un milieu masculin, c'est un exemple que j'ai vu depuis que je suis née et que je veux suivre pour ça aussi, parce que malheureusement, ça existe trop peu, effectivement.
Donc, vous avez toutes les deux eu un exemple familial.
Oui.
Ce qui est aussi marquant de voir que finalement, quand on trouve des femmes magiciennes, elles viennent de familles de magiciens.
C'est vrai.
Et c'est vrai que quand on pense à... On a Alexandra Duvivier aussi qui est célèbre et qui est une très bonne close-up. C'est la fille d'un magicien.
Et Yogan aussi.
On a aussi Yogan avec qui j'ai travaillé sur la mise en scène de son spectacle, qui est la fille de Yogano, un très grand inventeur d'illusions, de lévitation.
Ouais. Alexandra.
Aussi une fille de magicien.
Et il y a Julia Exactement. Webb aussi.
Julia Webb. Fille de Dominique.
Oui, il y a aussi Elfia Lister, qui est la fille de Hervé Lister.
Oui.
Enfin, ils sont tous. Je suppose qu'il a fallu montrer la voie avant que. Enfin, c'est plus difficile d'avoir l'audace de partir de nulle part en tant que femme et d'essayer de s'imposer dans le milieu.
Ouais.
Il y a aussi Beryl, la fille de Patty Bad. Hein.
Ouais, est-ce qu'on peut citer une femme magicien qui n'est pas une fille de magicien?
Alors, il y a Elisabeth Amato.
Oui.
Alors, je ne sais pas si elle avait ses parents dedans.
Non, parce que je pense qu'elle vient de la psychologie, ce genre de choses.
Elisabeth Amato, oui. Qui est donc une des premières mentalistes qui faisait déjà un spectacle de mentaliste il y a 15 ans en France. Hein.
Et championne du monde de magie, en cartomagie, en fait, avec un numéro de cartomagie.
Ouais, c'est vrai, très forte.
Qui a bluffé, vraiment, je crois, d'ailleurs.
Elle est extraordinaire, vraiment.
Un niveau, un très haut niveau.
Mais donc, on les compte sur le doigt de la main et on a même un schéma qui se répète. Alors, Thomas, toi, sur le forum de Virtuelle Magie, t'as combien de femmes à peu près?
Alors, c'est dur à estimer. Quand tu m'as demandé, j'ai essayé de voir, mais en fait, je ne peux pas savoir, mais j'estime à 20 maximum, à tout casser. Hein.
Sur combien d'inscrits?
7000. Hein.
7000. Donc, 20 sur 7000.
C'est fou, c'est fou.
Donc, c'est vraiment... C'est un milieu sans femmes. C'est un milieu... Il y a un vrai problème.
Complètement. Moi, je me suis posé la question, je me dis que ça vient peut-être de l'enfance, parce que souvent, les parents, ils vont plus offrir une mallette de magie à un petit garçon, et à une petite fille, on va plus offrir des poupées. Moi, à chaque fois, on m'offrait des poupées, j'en avais marre.
Tu les découpais?
J'ouvrais le cadeau, je savais que c'était une poupée, j'étais déçue à chaque fois, et j'avais la chance que mon père soit dans la magie, mais sinon, on ne m'aurait jamais offert une mallette de magicien. Hein. Et je pense que ça vient de là, je pense, parce que, tu vois, si on ne faisait pas de différence... Si on intéressait, parce que moi je vois dans mes spectacles, toutes les petites filles, elles me disent je veux devenir magicienne, je veux faire comme toi. Et parce qu'elles voient une fille magicienne, mais sinon ça ne viendrait pas à l'idée.
C'est-à-dire qu'on n'a pas d'exemple, et donc que le sujet va s'auto-entraîner, il n'y a pas de femmes magiciennes, donc il y en a de moins en moins.
Oui.
Mais alors dans ce cas-là, il y aurait un travail à faire du côté des hommes. Pourquoi est-ce que les hommes magiciens se sont pas à un moment dit, on a un problème dans notre art, surtout une discipline artistique. Je ne sais pas s'il y a une autre discipline artistique dans laquelle il y a si peu de mixité. Je vous pose la question, je réfléchis. Alors, il y a le milieu de la BD, qui est un milieu qui était très masculin, mais qui aujourd'hui s'ouvre quand même aux femmes de manière significative. En magie, pourquoi est-ce que les mecs se sont pas dit, on a un problème? Comment est-ce que les hommes, avec vous, se comportent quand ils voient que vous êtes magicienne, les magiciens?
Alors, au départ, moi, quand je suis arrivée dans les congrès, ça a été difficile de m'imposer au début. Parce que...
Tu peux expliquer ce qu'est un congrès de magie?
Alors, il y a des congrès de magie qui sont tous les ans en France, et puis il y en a partout dans le monde entier. Mais moi, il y avait des concours de magie, et moi, je m'inscris, comme tu fais, Marine. Donc, j'allais faire les concours, etc. C'est comme ça que je me suis fait connaître du milieu magique. Mais au départ, ça a été très difficile. On me disait, elle se sert de son physique, elle fait de la danse. Enfin, tu vois, ça a été difficile.
Ah là là, oui.
Et après, après, j'ai eu la chance d'avoir James Hodge qui est venu me voir et qui a dit à mes parents, elle a le truc, si vous voulez, je travaille avec elle pour lui faire une mise en scène. James Hodge, qui est très connu, qui est malheureusement décédé, mais qui est très connu du milieu magique, qui est un metteur en scène extraordinaire, qui faisait de la ventriloquie, plein de choses, un artiste
un illustrateur,
et j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 4 ans, et il m'a monté un numéro sous le thème d'E.T., et c'est comme ça que j'ai gagné des prix, etc. C'est grâce à James Hodge. Quelqu'un d'extraordinaire. Et après, c'est comme ça, en gagnant des prix, que j'ai eu la confiance des magiciens. Mais au départ, c'était difficile, très difficile.
Donc, tu as subi clairement le sexisme. Et je vois Marie, tu rigolais quand elle disait « on parle de mon physique ».
Moi, quand j'ai fait les petits festivals, en région notamment, parce qu'en congrès, j'ai mon nom qui parle pour moi. Donc ils savent à peu près... quel chemin j'ai pris, parce que je suis une fille de, avant d'être une artiste, je suis une fille de. C'est en train de changer parce que, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que pour un homme. Mais vraiment, c'est le même fardeau. Fils ou fille de, c'est un fardeau et un héritage en même temps. Moi, pour ma part, je sais que quand j'arrivais en festival, les gens me demandaient qui j'assistais. Et quand je leur dis je suis magicienne, ils me disent ah ouais, c'est qui le magicien que t'assiste? Et je leur dis non, il y a personne d'autre que moi sur scène. C'est juste moi et je manipule, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes, justement aussi parce que je voulais casser cette image un petit peu misogyne de la femme au musical. La femme, elle est là pour être jolie. Enfin, en tout cas, il y a 50 ans, c'était ça. Soit on était une danseuse, soit on était une démonstratrice, mais on n'était pas une artiste avec du savoir-faire. Et voilà, moi je pense que le principal challenge, c'est de se faire reconnaître en tant qu'artiste et pas en tant que femme. sur scène. C'est-à-dire, on nous engage pas pour mettre des œstrogènes sur scène, on nous engage parce qu'on est une personne, une personnalité, sans regard sur le sexe qu'on a. Et ça, par contre, c'est très difficile pour moi. Moi, je sais que je vois plein de plateaux d'artistes où c'est le pourcentage, un peu comme on met une personne de couleur dans une classe d'enfants pour remplir les stats, quoi. C'est malheureusement le cas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ressens ça comme ça.
Et disons que déjà, si on essaye de mettre une femme sur un plateau, c'est qu'on s'est dit qu'il manquait une femme. Pendant des années et des années, il n'y avait pas de femmes. Sur tous les congrès, sur tous les spectacles avec plein de magiciens, il n'y avait que des mecs. En général, alors il y a bien sûr quelques histoires, mais finalement, ton cas, Caroline, est plutôt évocateur dans Diversion.
Ça commence à changer, heureusement. Heureusement, maintenant, on commence à...
Ça commence.
Voilà. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait mon spectacle Girl Power, parce que j'en avais marre de... Enfin, tu vois, j'avais envie de montrer que... De changer les codes, quoi. Et puis en plus, c'est dans l'air du temps. Donc, j'ai vraiment envie de montrer ça. Donc, je fais des petits pics sur les hommes, etc. Mais c'est très gentil. Hein. Mais du coup, c'est pour parler.
Tu devrais pas être gentil. Ouais,
mais c'est pour parler de ça parce que j'avais vraiment envie de le dire. Thomas, ça me tenait à cœur.
Sur les raisons du peu de femmes en magie, en fait, j'ai retrouvé des propos que Patricia, justement, sur le forum, une magicienne avec qui je partage plutôt l'avis, a mentionné. Alors, effectivement, on a évoqué les boîtes de magie qui montrent que des petits garçons. Oui. Il y a toujours l'image très présente de l'assistante à côté, en petite tenue. Donc, ça ne donne pas envie de d'être à sa place, forcément. Après, il y a tout ce qu'on appelle aussi la charge mentale. Hein. C'est-à-dire que 45 minutes par jour, c'est le temps que les femmes consacrent à ce que font pas les hommes. Et donc, c'est 45 minutes qu'elles peuvent pas consacrer à leur loisir, et notamment à travailler à la magie, parce qu'elles vont s'occuper des gamins, la lessive, des courses et tout ça. Et donc là, maintenant, on rentre dans le truc sociétal, c'est aussi tout le fond, c'est-à-dire la société patriarcale qui fait que on pousse en avant plutôt les hommes que les femmes, et que en plus, la magie ayant été créée par des hommes, en tout cas... T'as la magie moderne, on va dire. Ça a plutôt poussé et incité ces messieurs à se mettre en avant et avancer là-dessus, en fait. Hein. Mais il faut penser que au tout début de la magie, il y avait pas mal de femmes, justement, avant que ça devienne dans le côté spiritisme, en fait. Hein, il y avait beaucoup de femmes magiciennes, en fait, pseudo-médiums qui intervenaient. Et ça marchait très, très, très bien, en fait. Hein.
D'ailleurs, on voit les voyantes. Il y a beaucoup plus de voyantes femmes que d'hommes. Hein.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Marie.
Je voulais juste remercier Thomas d'en parler en tant qu'homme, en fait, parce que la charge mentale, on entend beaucoup de femmes en parler, et je trouve ça vachement bien que t'en parles toi en tant qu'homme et que tu te places sur le devant de la scène, parce que effectivement, il y a des inégalités dans ce domaine-là aussi. Et moi, par exemple, pour parler, pour rebondir là-dessus, le fait de choisir entre ma vie de famille, future vie de famille et ma carrière, je sais pas Caroline toi ce que t'en penses, mais c'est une question qui, j'ai l'impression, se pose pour les femmes, mais qui se pose pas forcément pour les hommes. En tout cas, ça change, heureusement, les mentalités changent, mais moi, les gens me disent, tu pourras pas avoir les deux, si tu veux une vie de famille, tu devras arrêter ta carrière.
Ouais, c'est difficile, ça, c'est sûr, et c'est un problème, hein.
Donc c'est intéressant d'ouvrir le sujet à notre société qui est très marquée par ce problème-là et qui aujourd'hui est quand même un problème dont on parle de plus en plus. Je pense que dans la magie, on est dans un problème dans le problème, parce qu'il faut quand même reconnaître que la charge mentale n'a pas empêché des femmes d'être chanteuses, d'être actrices, d'être comédiennes. Ouais. En revanche, elles sont pas magiciennes. Donc ça, c'est une première question. J'avais envie de discuter un peu avec vous, simplement voir les métiers que peu de femmes font dans tous les secteurs en France. Quels sont les métiers avec le moins de femmes? Selon vous, vous avez quelques idées là-dessus?
Artistique, tu veux dire?
En général, tous les métiers. Enfin, finalement, artistique ou manuel. Pilote ou...
Sous-marinier, tu n'en trouveras pas, je pense.
Ouais. Sous-marinier. Donc, sous-marinier, c'est vraiment... Il y a eu... Oui, t'as tout à fait Une première femme sous-marinier en 2018.
Ah oui?
Alors, évidemment, il y a plein de raisons. Les sous-mariniers passent beaucoup de temps sous l'eau. Alors, quand il n'y a que des mecs, il ne faut pas les exciter, il ne faut pas machin. Alors, c'est comme si l'homosexualité n'existait pas. C'est sympa pour les autres. Mais sous-marinier, donc, c'était un des derniers métiers où il n'y avait pas de femmes.
Pilote d'avion aussi, non?
Pilote d'avion, il y en a peu, mais il y en a quand même.
Il y en a quand même, ouais,
depuis un certain temps.
Ouais.
Il y a scaphandrier, 10 femmes pour 1800 hommes. Voilà, donc scaphandrier, ça aussi, c'est ce genre de métiers qui sont des métiers certes physiques, mais qui sont aussi entourés d'une certaine tradition, d'un certain secret, savoir-faire. Je trouve qu'il y a quelque chose intellectuellement qui peut nous ramener un peu vers la magie, c'est-à-dire ces métiers un peu réservés, je dirais. Charpentier aussi. Charpentier, 0,4% de femmes. Enfin voilà, donc en tout cas, je pense que dans les métiers artistiques, il n'y a pas beaucoup d'exemples, alors que par exemple, même la danse, qui était un métier très féminin, a été investie par les hommes, qui y sont d'ailleurs reconnus, très bienvenus. Je veux dire, aujourd'hui, les danseurs étoiles hommes sont très valorisés. Aujourd'hui, les femmes se battent encore pour avoir une place sur scène. Alors toi, Thomas, tu coaches aussi des artistes?
Oui, la même formation. Enfin, j'ai débuté très récemment, justement, à Blois, là où Marine, justement, a pu aider d'autres coachs d'améliorer ses numéros. Et j'ai fait ça à Blois, la Maison de la Magie Robert Houdin, qui est un lieu prestigieux, magnifique. Christian Fechner, un producteur féru de cinéma et de magie, qui a lui-même été champion du monde de magie, avait pris du temps et a investi beaucoup de temps et d'énergie pour construire. C'est un lieu magnifique. Et dans le théâtre qu'au sous-sol, plusieurs fois, une ou deux fois par an, en fait, quelques coachs viennent aider des candidats et des candidates à monter leur numéro, comme Marine a pu le faire. Et cette année, j'ai été intégré à aider quelques candidats et candidates à faire qu'elles puissent gagner des concours français et, si possible, pour la France, internationaux.
Donc, la Maison de la Magie de Blois, on vous le recommande, c'est un très bel endroit, notamment avec une devanture incroyable où toutes les heures, vous avez des automates qui sortent des fenêtres, un dragon, et qui crachent du feu. Non, il crache pas de feu?
Non.
Bah, moi, dans mes souvenirs, il crache du feu.
La fumée, mais.
Ouais, il crache de la fumée, voilà. Ça, c'est...
tu serais pas magicien. Mais,
c'est bien, c'est bien. C'est, voilà, c'est dont on se rappelle. Donc, c'est aussi le musée de la magie. Vous y verrez plein de choses et des spectacles. Et donc, il y a des formations aussi. Donc, ça, pour les magiciens qui ont envie de monter un spectacle,
oui,
on se retrouve.
Tout le monde peut postuler. En fait, c'est la Fédération française des artistes prestidigitateurs, la FAP, qui organise ça en sein et qui a deux sections. Une pour le close-up, c'est-à-dire la magie de très très près, et une pour la partie scène et qui va permettre aux artistes affiliés ou pas de venir postuler déjà. Et après, s'ils passent l'examen, là, on a dû voter. Il y en a qui ont été pris, d'autres pas pris parce que soit on croyait à leur potentiel, soit on considérait qu'on pouvait peut-être pas les aider par rapport à leurs objectifs.
D'accord.
Et voilà, ça nous...
Tu en reviens ?
J'en reviens, oui, oui, il y a quelques jours.
Tu as coaché combien de gens ?
Je sais pas, 7-8.
7-8 ? Oui. Combien de femmes ?
Une.
Il y en a
une
femme.
Il y avait Alice et Scylla, avec un très bon numéro.
Alice et Scylla, on ne connaît pas, mais on regardera. Est-ce que c'est une fille de magicien ?
Oui, moi je l'ai vue en stage. C'est une femme très intéressante.
Oui, oui, mais ce n'est pas une fille de magicien.
D'accord.
C'est
bon.
Une femme.
Ah bah voilà.
Donc sur 8 personnes, une femme, et donc comment est-ce qu'elle a été reçue ?
Alors ici, il y a un duo, autant pour moi. Il y a Antioche et Zegora, donc ils sont dans lequel elle joue le rôle de son assistante, mais en même temps ils sont en couple à la vie et donc bon, elle rayonne sur scène et voilà, c'est un numéro très très intéressant.
C'est de la magie comique.
Magie comique, exactement.
Ouais. D'accord, mais c'est quand même, il y a quand même un rapport magicien-assistante indéniable dans leur approche ou. Ils travaillent là-dessus.
Pour l'instant, j'ai essayé de faire bouger les cases. Ça joue des codes aussi. On ne peut pas lutter contre certains types de codes. En Occident, lorsque ce qui représente 1 ou 2% de la population dans le monde, vous dites un magicien, les gens vont poser lapin, chapeau et type de costume. Dans le reste du monde, quand vous parlez magie, on va vous parler de marabout, voyant. C'est pas la même approche, en fait.
On parle donc, nous, plutôt de prestidigitateur.
Magie moderne, en fait, qui a été initialisée par Jean-Eugène Robert Houdin. En fait.
Illusion. Oui, qui est en fait de la magie où on ne prétend pas, en tant que magicien, avoir de vrais pouvoirs. On présente un spectacle en admettant ne pas être un magicien.
Moi, je pense que ça dépend du style. Il y a deux types de magie. Il y a la magie réaliste et la magie fictionnelle qu'un Espagnol a défini, qui s'appelle Gabi Pareras. Et il y a deux points de vue. Il y a ceux qui veulent raconter une histoire et qui donc justifient la magie par voilà, l'imagination, ou en tout cas un propos fictif. Et il y a la magie réaliste, tout comme certains mentalistes, par exemple, qui vont te dire « ferme les yeux, pense à quelque chose, je vais deviner à quoi tu penses parce que je suis mentaliste ».
Vous qui travaillez donc au quotidien à faire avancer la magie par vos numéros, par vos réflexions, est-ce que vous estimez que le milieu, d'une certaine manière, est lésé par le manque de femmes ? Dans la réflexion créative, dans ce qu'on peut apporter, enfin la mixité apporte de l'intelligence dans un milieu créatif. Est-ce que vous avez ressenti, vous, comme ça, une vision que vous avez du secteur, ou du milieu, ou de l'art en général, que personne d'autre n'a ou qui manque ?
Pour ma part, ta question, c'est est-ce que tu considères que la moitié de la population est importante? J'ai envie de dire oui, que ça soit en magie n'importe où, les femmes sont importantes à la société, c'est vraiment très important. En dehors du coach et de VM et tout ça, je suis depuis 2 ans une formation en écriture magique au Centre National des Arts du Cirque. Et dans ma promotion, lorsque je suis arrivé en classe, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de la moitié, c'était des femmes. Ça m'a fait extrêmement plaisir, j'en ai parlé immédiatement sur le forum, parce que j'ai le sentiment qu'elles vont vraiment apporter quelque chose. D'autant que cette formation est mise en place par Raphaël Navarro, Valentine Losso et Clément de Bailleul, qui sont les initiateurs de la magie nouvelle, qui est un autre type de magie, où, dans lequel la magie intervient sans que le magicien ou la magicienne fasse des pouvoirs, ce genre de choses. Et donc, forcément, ça attire des gens qui font du... Dans ma promotion, j'ai une nana qui fait du porté sur cheveux, une nana qui travaille avec des fils, des ventriloques, une réalisatrice, une clown, et c'est vraiment enthousiasmant. Et d'ailleurs, je suis en train de monter 2 numéros avec deux femmes, et vraiment, ça apporte un univers complètement différent, des réflexions,
Ça fait évoluer.
Voilà, ouais. on sort du cadre, et tout. Enfin, quand on est magicien, on aime sortir du cadre, donc oui, à la fin. Aux femmes dans la magie. Quoi. Ouais.
Donc, c'est plutôt quelque chose qui aujourd'hui fait évoluer l'art dans le bon sens.
Complètement. Mais oui, bien sûr.
Moi, je pense que c'est un peu compliqué de parler de ce qu'apporte la femme dans le milieu sans décrire ça d'une manière qui peut être interprétée comme misogyne, parce qu'on pourrait dire que la femme, sur les définitions un peu arriérées, on va dire, apporte la sensibilité, peut-être un peu de naïveté, un peu plus d'émotion. Mais j'ai l'impression que à cause du côté très traditionnel du magicien qui est mystérieux, un petit peu comme David Copperfield pour le coup, même si lui il ajoutait de l'émotion aussi, je pense que les femmes peuvent peut-être nuancer et proposer peut-être plus de vulnérabilité, et la vulnérabilité c'est une des choses les plus humaines qui soient. Et je pense qu'à partir du moment où on propose quelque chose d'humain au public, c'est un pont qui est beaucoup plus accessible, un peu comme dans un film ou une chanson qui parle de quelque chose qui fait écho à notre propre histoire. Et moi, c'est en tout cas mon but en tant que femme, c'est de montrer de la vulnérabilité, de que les gens s'identifient un peu à l'histoire que je vais raconter. Et j'ai l'impression, sans vouloir aller dans le cliché et dans le fait de généraliser, que la femme est plus encline à montrer sa vulnérabilité, à raconter quelque chose de personnel, en tout cas de ce que j'ai pu voir, et à montrer peut-être plus ses émotions. C'est mon point de vue après. Hein.
C'est intéressant parce que toi, Caroline, tu as une approche qui est complémentaire à celle-là, ou tu as plutôt retourné les codes?
Oui, voilà. Après, j'ai essayé de faire aussi des créations, des choses qui soient un peu uniques par rapport à ce qui existe et tout. Mais moi, j'avais pas envie d'être dans ce côté un petit peu poétique. À l'adolescence, j'avais fait j'avais une barrière là-dessus. Je voulais pas du tout faire quelque chose de féminin. Donc j'ai voulu vraiment casser les codes et faire un peu le truc un peu mec, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que je trouve que
tu restes féminine, hein, moi je trouve. Hein. Ouais. Tu restes féminine, tu restes avec ton sourire, ton charme. Tu restes aussi avec ta sensibilité, même si t'as de l'humour, même si t'as la tchatche et que t'es quand même, t'es aux commandes. Je trouve que tu restes féminine. Je trouve que justement, t'es allée à l'encontre des codes, mais tu restes, t'as toujours les qualités, on va dire les qualités charme féminine. Quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
C'est intéressant d'évoquer un sujet, moi, qu'on m'a toujours dit en tant que mec qui fait de la magie. C'est la magie, c'est pour draguer les filles. Le lien entre magie et séduction, il est évident. Je crois qu'on peut pas, on peut pas ne pas en parler, notamment quand on voit un certain nombre de magiciens, mecs, qui virent vers cette espèce de dark side, enfin selon moi, qui est le pick-up artiste, le mec qui va un peu manipuler les filles pour coucher avec elles facilement à base de tours de magie, un des plus gros pick-up artistes notamment. Il se dit magicien et il te dit « moi je fais quelques tours de cartes » et puis ta ta ta. On a donc cette tradition du magicien charmeur, du magicien dragueur, c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc, on se retrouve avec une magie qui va être une magie pour quoi ? Pour impressionner les filles ? Une magie pour impressionner rapidement, pour donner envie d'être séduit ? Enfin, c'est encore une fois quelque chose qui va donner un but à la magie qui est a priori pas le but de base, qui est de proposer un spectacle impressionnant, et dans lequel peut-être qu'une approche venant d'une femme qui, pour le coup, même traditionnellement, va être beaucoup moins enclin à la drague agressive, parce que la drague agressive, c'est quelque chose qu'on a appris aux mecs. Ça, c'est sociétal, mais c'est réel.
C'est
tristement sociétal, mais en tout cas, c'est une réalité. On apprend aux mecs à faire une drague agressive. Est-ce que les femmes en magie vont pas pouvoir apporter une magie justement recentrée sur le sujet ?
C'est vrai que souvent, le magicien, au départ, c'est des grands timides, souvent. Pour la plupart,
ouais.
c'est des grands timides qui n'arrivent pas à aborder une fille ou etc. qui se servent de l'accessoire magique pour draguer, ça c'est vrai. Mais du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'une femme elle est moins intéressée par la magie, parce que tu vois, on va plus être intéressé par la danse ou tout ça qui est joli, etc. que surprendre. Mais une fois qu'on goûte à ce côté surprenant, à voir les gens émerveillés. Et ben on a du mal à s'arrêter, quoi. Ça devient une passion et...
Comme moi, la façon dont je vois la magie en général, c'est... Pour moi, la magie est un art, même si malheureusement, et au grand dam de notre président de la fédération, voilà, c'est pas un art. Moi, je considère que c'en est un parce que c'est un moyen de communiquer et je pense que c'est ça qui a permis aux hommes de peut-être trouver un autre biais que le biais classique de la drague. Et que comme c'est un biais détourné qui passe par là, c'est une autre manière de communiquer. Moi, c'est ça qui m'attire par dans la magie aussi. C'est ce côté transmettre quelque chose, communiquer quelque chose entre le public. Je vais être un peu cliché, mais j'ai entendu beaucoup de garçons, c'est trop petite fille. J'ai entendu beaucoup d'hommes qui se sont exprimés en disant qu'ils voulaient être sur scène pour se faire plaisir. Et c'est texto, hein. Il n'y a pas que, il y a les mecs de stand-up, il y a plein de... Et moi, j'ai toujours vu ça plutôt comme une occasion de donner, en fait. Je sais pas si c'est mon éducation artistique qui fait ça, mais j'ai l'impression que justement, moi, j'ai pas voulu apprendre des tours pour pouvoir gagner les applaudissements. J'ai plus voulu apprendre pour pouvoir donner, raconter, communiquer. Donc, au final, je suis peut-être plus masculine dans ce côté-là, parce que c'est ma manière à moi de montrer, de communiquer aussi, en fait, peut-être.
Ouais. On a envie de donner et on a envie de surprendre aussi. Enfin, je sais pas si tu vois, on a envie de surprendre aussi bien le public que les magiciens, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Si demain on veut amener plus de femmes en magie, donc en sortant des filles de magiciens, des femmes de magiciens qui ont évidemment aujourd'hui peut-être un rôle précurseur dans cette idée-là, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on on entreprend la transmission.
Moi, je suis partisan de la contrainte, en fait. C'est comme à l'assemblée ou autre chose. C'est quand je vois des plateaux, j'ai envie de dire non, je veux la moitié de la population humaine sur le plateau, quoi. Et pas en assistante qui apporte des foulards ou je sais pas quoi. Tu vois. C'est extrême.
Ouais, mais le problème de ça, c'est qu'ils vont choisir des femmes pour remplir les cases et pas forcément pour l'artiste.
Je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec toi, Marine, mais c'est un process inhérent. Et au départ, dans tous les autres corps de métier, on a fait ça. Bah, forcément, on n'a pas pris les métiers les meilleurs au départ, puisque il a fallu qu'elle se forme et s'habitue, mais à force, ça fait monter le niveau de tout le monde. Et ces messieurs qui côtoient ces demoiselles qui peut-être n'ont pas leur niveau technique ou leur niveau scénique vont peut-être quand même trouver des choses à apprendre sur leur présence. C'est ce que tu disais sur le fond des messages qu'elles apportent, puisque voilà, c'est peut-être aussi pour ça en magie nouvelle qu'on trouve pas mal de femmes, puisque ça leur permet d'exprimer le message qu'elles veulent sans contrainte de scénariser beaucoup plus ou de s'exprimer, d'être moins dans des codes qu'on peut retrouver en magie moderne qui, par certains points de vue, peut parfois devenir la magie traditionnelle, dans le sens où nous tous, Caroline, Guillaume, Marine et moi, si on voit quelqu'un sur scène, on peut, avant même qu'il bouge, dire à un moldi à côté, là, il va faire ci, il va faire ça et tout ça. Donc, on est presque dans quelque chose de traditionnel. Et c'est quand même assez dommage, puisque la magie moderne, ça a quoi, 150 ans, pratiquement 200 ans. Donc, voilà, c'est bien que ça bouge. Il faut que ça bouge avec les femmes, notamment.
C'est ce qui se fait, hein. Et c'est pour ça que plus on va voir de magiciennes, plus ça va donner envie à des profanes de s'y mettre.
Complètement.
Il y a une sous-catégorie du close-up qui est la cardisterie, qui est quelque chose qui est à la mode depuis quelques années, qui consiste à faire, alors je saurais trop comment l'expliquer, de la jonglerie avec un jeu de cartes. Donc, on utilise un jeu de cartes classique de magie. Et puis, on va faire des figures de cartes. Alors, ça peut être faire un peu voler les cartes au-dessus de soi, faire la carte boomerang ou des figures assez compliquées. Et ça se développe pas mal sur Instagram parce que c'est assez visuel. Et j'ai remarqué que dans cette catégorie-là, donc même si évidemment, encore une fois, c'est des mecs qui ont amené le sujet sur la table, c'est notamment Dane and Dave Buck qui ont lancé un DVD il y a quelques années qui s'appelait Trilogie et qui proposait comme ça plein de mouvements de cardisterie. Alors c'est, voilà, il faut s'entraîner. Mais il y a pas mal de filles dans ce domaine-là.
Oui.
Et la cardisterie amène aussi à la magie pointue, à la manipulation. Donc je pense notamment à une Instagrammeuse qui s'appelle Alix Beckle.
Elle cartonne.
Qui est très forte, qui a 28 000 abonnés, qui est une Strasbourgeoise.
Il y a Ekaterina aussi, une Québécoise.
Et qui font de la cardisterie. C'est-à-dire qu'elle fait principalement de la cardisterie. Autant vous dire que quand on est bon en cardisterie, les quelques mouvements de magie des cartes, c'est rien du tout. Donc on est quasiment magicien automatiquement, même si c'est une autre... enfin, en tout cas, on est capable de faire des tours de magie, même si c'est une autre filière. Donc est-ce qu'il faut réinventer des catégories magiques pour que les femmes puissent avoir leur place ?
Je voudrais juste ne pas omettre de dire qu'il y a eu des magiciennes, et il y en a toujours des magiciennes qui font de la manipulation et qui sont excellentes. Des femmes comme Juliana Chen,
oui,
qui sont arrivées sur le terrain des hommes et qui ont dit « Ok, moi je sais faire ça ». Et elle a gagné des prix FISM, elle avait gagné des prix en championnat du monde. Donc je pense qu'il ne faut pas sectariser trop et justement ne pas oublier qu'il y en a qui ont déjà commencé à bâtir les premières marches et que qu'on continue. Moi, pour ma part, modestement, j'ai eu un deuxième prix en manipulation saine l'année dernière au championnat de France. Il y en a en cardisterie, il y en a en scène. Pour répondre à ta question d'avant, puisque j'ai pas osé interrompre, ce qu'il nous faut, c'est plus d'exposition médiatique, je pense. En fait, il faut que les gens voient qu'il y en a qui le font,
exactement,
qu'elles sont respectées, qu'elles sont à pied d'égalité avec les hommes, parce que je suis désolée, mais je suis certaine que si on cherche un yodjin féminin, on en trouve un, qui est donc le champion du monde en manipulation, championnat du monde 2012. Je pense que c'est un manque d'exposition,
oui,
que peut-être les sociétés en général sont pas prêtes à mettre sur le devant de la scène peut-être des femmes qui ont autant de talent, autant de capacités techniques, parce que je suis désolée, ça m'enflamme ce domaine-là parce que on en voit pas assez, parce que voilà, quand on voit une femme sur scène et qu'elle fait de la manip, réflexe qu'on a tous, c'est ah, c'est pas mal pour une femme.
Mais d'accord.
Ça me fout en l'air parce que on est foutu pareil. On est capable de la même chose. C'est juste qu'on a moins de couverture.
Voilà.
On a moins de couverture médiatique. Et justement, il faut bouger les choses. On est là.
Donc, Caroline et Thomas, qui avaient tous les deux une notoriété dans le milieu et en tout cas une capacité à envoyer des messages et à émettre de l'information, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Il faut mettre en avant des femmes.
Moi, c'est ce que je fais. Hein.
Je m'y emploie. Girl
power. Hein. Ouais, je suis
aussi,
à fond dans les...
La balle patriarcat, j'arrête pas de le répéter.
Et c'est vrai, quand tu dis on est foutu pareil, moi, je te rejoins là-dessus et ça me rappelle une anecdote, un truc qui m'avait choqué dans un club de magie où j'avais croisé une jeune femme. Elle faisait de la magie avec un bicycle bridge. Alors, j'explique un petit peu. Le bicycle, c'est le jeu de cartes qu'utilisent la plupart des magiciens. Caroline en a un dans la main gauche actuellement. Voilà, donc c'est des jeux de cartes de poker. Et donc, c'est des cartes au format poker. Et elles sont un peu plus grosses que les cartes au format bridge, qui est donc, ils sont des cartes un peu plus fines en largeur. Voilà, bon. On utilise en magie des cartes au format poker pour diverses raisons, notamment quand il s'agit d'avoir des cartes peut-être un peu spéciales qui vont donc être adaptées. En tout cas, il y a des standards et en tout cas, il y a plein de magiciens, notamment des petits mecs avec des petites mains qui vous font de la très bonne magie avec des cartes au format poker. Et bien, cette fille, les magiciens qu'il avait formés dans le club lui avaient dit « Toi, avec tes petites mains, prends un petit jeu. » Elle n'avait pas des plus petites mains qu'eux. Mais il lui a quand même foutu entre les mains un petit jeu qui, du coup, forcément handicapait sa magie, parce que tu peux pas faire de la magie avec un jeu bridge. Il y a plein de choses qui te sont fermées, ne serait-ce que les jeux sont plus chers. Et les jeux de cartes en magie, quand tu fais de la magie, c'est un budget. Là, tout à l'heure, Caroline, avant qu'on enregistre, elle a ouvert un jeu neuf.
Ouais.
Bon, ben, un jeu neuf, c'est 5 balles. Je sais pas combien t'en uses tous les jours, mais bon.
Ah oui, c'est un par jour.
C'est un par jour quand t'es pro. Et quand t'es amateur, tu uses du jeu. Et j'avais vu ce truc où je m'étais dit, ils lui ont foutu un petit jeu dans les mains. C'est absurde.
Et
alors
moi,
on
m'avait proposé la même chose. Quand j'ai démarré le close-up, parce que j'ai les mains un peu petites, il m'avait dit, ah oui, il faut que tu prennes un petit jeu. Et je me suis fait la réflexion, mais après, je vais être embêtée tout le temps. Parce que quand je vais être avec des magiciens, je vais lui demander un jeu. Ah ben non, c'est pas le même format. Donc je me suis dit non, tu apprends sur un jeu normal. Et voilà, en fait, je peux faire toutes les passes. Enfin, il n'y a aucun problème.
Toujours, bien sûr. De toute façon, tu as des enfants qui font de la magie et tu as des mecs qui ont des petites mains.
Ouais, donc ça ne change rien du tout.
On t'a proposé le jeu Bridge, Marine ?
Je suis super d'accord sur le principe de ne pas stigmatiser la difficulté en rendant... voilà, je suis d'accord avec vous, en gros. Maintenant, moi, j'utilise des cartes Bridge.
D'accord.
Le malaise.
Parce que voilà... Non, je suis avec toi, Marine.
Moi, je considère qu'on choisit ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut comme outil, il n'y a pas de règle.
En manip, en close-up, c'est une chose, mais en manip, soit entrer dans le détail, quand tu as une charge de 50 cartes, les centimètres, ils font la différence, sans vouloir rentrer dans d'autres détails d'ailleurs. Et au final, le seul truc moi où je voudrais ajouter un point de vue, c'est que la magie est faite pour les hommes dans les termes les plus pratiques possibles. C'est-à-dire que un close-up man, il aura une veste pour homme, il aura une poche intérieure. Moi, là, si je veux faire du close-up, j'ai pas de poche intérieure parce que les vestes pour femmes n'en ont pas. Des choses bêtes comme... aide-moi Caroline, il y a plein de petits détails qui
les trucs qui permettent de te débarrasser de l'intérieur, des poches intérieures.
On doit pas trop rentrer dans les détails. Mais on comprend ce que tu veux dire. Ouais.
Mais au-delà de la veste, par exemple, pour faire apparaître et disparaître un petit foulard, par exemple, il y a un accessoire qui ne convient pas forcément aux petits doigts. Moi, je sais que je ne fais pas cet effet parce que je ne sais pas. Voilà, des choses comme ça. Et je pense que ça bouge, hein, ça bouge.
Après, il existe des différentes tailles. Enfin, voilà.
Heureusement, mais je veux dire, de base, c'est vrai que en termes d'équipement de magie, c'est pas du tout pensé pour la femme.
Non, c'est sûr.
C'est vrai que la veste de costume.
Oui.
La veste de costume, c'est un accessoire en magie. Il y a plein d'accessoires qui viennent se fixer sur cette veste et qui permettent de faire de la magie. Quand tu es en robe de soirée.
On est d'accord.
Il y a plein de trucs que tu peux pas faire, ne serait-ce que parce que t'as pas de poche.
Bah oui.
Je me souviens même qu'il y avait eu, d'ailleurs, je crois que c'était sur Slate.fr, un reportage où ils avaient montré que les poches des jeans des femmes étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites que celles des mecs. Et moi, j'étais rentré à la maison.
Minuscules.
J'avais pris le jean de ma copine, que j'avais porté, du coup. Non, je plaisante. Et j'avais vu ces toutes petites poches où je rentrais la moitié de mes phalanges et je me disais, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi elles ont des petites poches?
Tu rentres un ticket de métro, c'est tout, ouais.
Bah voilà. Jusque-là, c'est difficile de faire de la magie pour une femme.
Après, sinon, il faut faire du sur-mesure.
Qu'est-ce que tu portes, toi?
Bah ouais, mais c'est un budget, quoi.
Ouais, c'est un budget. Alors moi, j'ai eu la chance d'être à Bobino pendant 3 ans où il y avait une costumière. Et donc, il m'avait adapté une robe avec 25 poches cachées dans le jupon. Dans le jupon de la... Donc j'ai pas de manches.
D'accord.
Donc ça, c'est pas trop pratique, mais bon, j'ai pas du tout de manches. Et dans tout le jupon, il y a 25 poches cachées.
Et d'ailleurs, les
femmes, elles me disent « Ah, mais c'est super comme idée, pas besoin de sac à main, tout est caché dedans. » Enfin, voilà.
C'est ça, ouais.
Et après,
en close-up, les femmes, elles ont un sac à main parce qu'elles n'ont pas forcément tout le temps...
Bien sûr.
Les mêmes poches que les hommes aussi,
voilà.
Donc ça rajoute une contrainte de se trimballer quelque chose, machin, bref. C'est juste, voilà, c'est un des nombreux détails.
Voilà.
Rendre inclusif le matériel de magie, c'est aussi une étape pour amener les femmes en magie.
Oui, c'est sûr.
Voilà,
c'est
un message pour tous les fabricants, Murphy's et compagnie.
C'est ça.
Faut pas dire de nom. Alors, sur le forum de Thomas, il n'y a pas le droit de citer des noms. Mais ici, c'est chez moi.
Tu as le droit de citer les noms, tu n'as pas le droit de mettre les liens.
Il faut trouver du sur-mesure. Quoi. Alors après, avec le temps, j'ai une costumière qui me fait tout sur-mesure parce que sinon, on ne peut pas trouver dans le commerce.
Mais on a l'endroit de l'argent. Je pense que lorsqu'il y aura un marché, il faut s'atteler à ça. Tous les marchands de trucs se jetteront dessus immédiatement.
Bah oui. S'il y a de l'argent,
mais moi s'ils sortent une veste de close-up pensée pour tous les, enfin on va pas faire des clichés, mais je veux dire, s'ils sortent une veste féminine close-up en congrès dans les foires ou trucs, c'est là où en gros en congrès on achète les tours, je suis certaine que les femmes des magiciens qui les accompagnent en congrès ça va faire germer un truc. Elles vont se dire, ah, elle est jolie la veste, ah, et en plus il y a ça, ah. Mais pourquoi pas?
Oui, c'est vrai.
Pourquoi pas? Parce que les femmes accompagnent leur mari en congrès, parce que ça dure 3 jours et que c'est un super événement. Et je pense qu'elles se disent peut-être qu'il n'y a pas la place. Et si on crée des produits pour elles vont peut-être s'imaginer un peu comme quand on passe devant un vêtement dans une vitrine, on se met devant le mannequin et on s'imagine avec, peut-être que ça peut créer des ouvertures. Peut-être.
C'est des chouettes pistes. en tout cas. Je pense qu'il y a, du travail, il y a du pinceau à la planche. Est-ce que pour conclure, vous voulez éventuellement raconter une histoire qui vous est arrivée par rapport à ce sujet-là, une histoire qui vous a marqué, positive ou négative, une anecdote, ou alors un conseil, une idée, peut-être un conseil pour les filles qui nous écoutent et qui se disent « bah moi, je fais pas de magie parce que c'est un truc de mec ». Peut-être, on nous a demandé notamment des sources, des liens, donc on pourra éventuellement donner aux auditeurs quelques liens
de femmes qui font
pour
la
apprendre.
Magie, ouais.
Des femmes qui font de la magie, clairement, éventuellement même quelques pistes de matos qu'on peut récupérer ou des bonnes pistes pour commencer. Enfin, voilà. Je vous laisse. Marine, tu veux commencer ?
J'ai beaucoup moins de métier que mes deux camarades, donc c'est vrai que je vais pas vous vendre du rêve. Ce que j'aurais envie de dire, par contre, c'est que il faut un maximum ne pas se genriser. Il ne faut pas se comme a fait Caroline, il faut pas se définir en tant que femme à partir du moment où on veut faire de la magie. Je pense qu'il faut se définir en tant qu'artiste, ce qui ferme beaucoup moins de portes. Et confrontez-vous à la technique, confrontez-vous au concours, confrontez-vous à tous les terrains où on n'est pas. Parce que d'une, vous allez inspirer l'admiration des deux côtés, et de deux, vous allez voir que c'est un des meilleurs terrains pour se prouver, pour grandir et pour faire changer les mentalités aussi, quoi.
Merci.
Voilà.
Thomas ?
Moi, ça sera plutôt des recommandations. Messieurs les fabricants de jouets, faites des boîtes pour les femmes, pour les petites filles, mettez-les en avant en photo, mettez ça dans les rayons des filles, qu'elles se disent « Ah, moi aussi, je peux être magicienne ». Messieurs les producteurs télé, messieurs les producteurs de shows, engagez des femmes maximum, quel que soit leur niveau et tout ça, pour faire bouger les choses. Et mesdames, allez-y, foncez. Vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on voit un maximum de femmes. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, venez me voir en spectacle. La prochaine date, c'est le 15 novembre. Et vous allez voir que...
À Paris ?
À Paris, ouais, au César.
Girl
au César,
Power, au César
Girl
à Paris.
Power, voilà. Et donc, je mets vraiment les hommes en boîte gentiment. Mais les filles, il faut vraiment faut bouger les choses. Et puis, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail et surtout, ne jamais lâcher, quoi.
Eh ben, on y sera. Moi, j'y serai pour le 15 novembre, c'est promis. Et puis, on pourra dédicacer les iPhones des gens qui ont écouté Magikos avec des voilà. Façons délébiles. Ça se fait beaucoup dans le podcast. Voilà. Marine, on peut te voir, toi, quelque part, te produire ou pour l'instant, tu travailles ?
Je suis sur la région de Benidorm. Donc, si vous venez en vacances ou si vous venez vivre, ce qui est une bonne idée, faites comme moi, je serai dans les hôtels... Les hôtels de Benidorm, je serai sur plusieurs scènes en même temps. Après, moi, je crois pouvoir peut-être éventuellement dire, même si c'est quasi sûr, je serai au congrès FFAP l'année prochaine en tant qu'artiste engagée. C'est une immense fierté pour moi parce que je pensais pas y arriver aussitôt, sachant que j'ai été primée l'année dernière. Et je suis contente d'être là. Voilà, on se donne rendez-vous à Troyes l'année prochaine au congrès aux magiciens en l'occurrence, parce que c'est pas pour les profanes.
Qu'est-ce que ça veut dire artiste engagé?
Ça veut dire que j'ai toujours fait les concours moi, et là pour une fois je suis engagée dans un gala en tant que professionnelle.
Tu es rémunérée et voilà. Payée pour te produire. Voilà,
super, bravo.
Félicitations, bravo. Et puis,
bravo.
Si tu passes à Paris et que tu as un moment, une date ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire, je relayerai. Et Thomas ?
Avec plaisir.
Eh bien, moi, on me retrouve un peu partout sur les réseaux, notamment sur virtualmagie.com, sur lequel, si vous aimez la magie, pour peut-être la commencer, vous y trouverez des tours de magie, vous trouverez plein de réflexions, des trucs du métier. Si vous voulez acheter, vous n'avez pas trop de budget, il y a des dizaines de milliers de petites annonces de très bons tours, de livres aussi, des critiques de livres, de choses. Il y a un forum de discussion où on débat de tout. La magie, mais aussi de non-magie aussi, puisqu'il y a des sujets sur les femmes que j'ai dû fermer, puisque ça partait en sucette. Hein. Malheureusement, je le regrette fortement, mais on parle de tout. Et j'organise pas mal d'événements, plein de choses. C'est ouvert à tout le monde. Et bien sûr, il y a une partie agenda. Donc, si vous ne comptez pas faire de la magie, mais aller voir de la magie pour l'encourager, vous trouverez vos dates dedans.
Donc, il y a un agenda sur Virtual Magie avec tous les spectacles.
Exactement.
À Paris,
tous,
et les
je ne dirais pas, mais tous
France.
Ceux qui entrent leur spectacle, et je les recommande à faire si vous écoutez, puisque pour votre référencement Google, c'est toujours ça de gagner.
Bah, c'est bon à savoir.
Voilà.
Pour les amateurs de magie, notamment même les profanes.
Exactement, bien sûr, bien sûr.
Je voulais juste terminer en disant une phrase que mon père me répétait toujours. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves.
Eh ben merci, merci beaucoup à tous les trois d'avoir
merci à toi.
D'avoir exploré ce sujet avec nous.
Et vive les femmes magiciennes.
Yes,
vive les
girl
femmes
power.
Magiciennes. Girl power.
Puis encouragez
encouragez-les
à fond. Merci à tous.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Magikos, un podcast produit par Slate.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher de très grosses étoiles. Et si cet épisode vous a déplu, laissez un commentaire négatif sur la page TripAdvisor de Notre-Dame de Paris. Parce que depuis qu'on a retiré le toit, il fait vraiment plus froid. Retrouvez tous les épisodes de Magikos sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Et merci à Benjamin, notre réalisateur que j'ai oublié d'introduire en début d'émission. Et qui est avec
nous. C'est pas grave parce que j'ai pas parlé.
Ouais, mais t'es quand même important et on t'aime beaucoup. Salut.